Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h18, merci à vous d'écouter Europe 1. Il y a 25 ans, tout juste, disparaissait François Mitterrand. Le 8 janvier 1996, premier président socialiste de la 5e République, le seul à avoir effectué 2 septennats. Emmanuel Macron s'est recueilli aujourd'hui sur la tombe de son prédécesseur à Jarnac. Et on va prendre le temps ce soir de revenir sur ces 14 années de la vie politique française. Et pour cela, je suis entourée ce soir des meilleurs spécialistes. Bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir Isabelle.
Vous avez publié 2 ouvrages qui sont consacrés à l'ancien président, Le Noir et le Rouge, ou l'histoire d'une ambition chez Grasset, et puis Les 7 Mitterrand ou Les Métamorphoses du Septennat également chez Grasset. Jean Garrigue, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste d'histoire politique, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Les Perdants Magnifiques de 1958 à nos jours aux éditions Talendier. Et puis Jacques Attali, bonsoir Jacques Attali.
Bonsoir.
Écrivain, principal conseiller de François Mitterrand, vous êtes l'un de ceux qui connaissaient sans doute le mieux l'ancien président. Vous avez écrit « C'était François Mitterrand » aux éditions Fayard. Bonsoir et merci vraiment beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat du Club des idées d'Europe 1. Et c'est donc l'image du jour, Emmanuel Macron à Jarnac, sur la tombe de François Mitterrand. Après avoir célébré De Gaulle, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, le président poursuit donc son itinérance sur les traces de ses prédécesseurs. Et ça n'est que le début, hein, puisque cette année 2021 sera l'année Mitterrand. On commémore aujourd'hui le 25e anniversaire de sa mort, mais on fêtera cette année le 40e anniversaire de son élection. Et on a choisi, nous, ce soir sur Europe 1, de revenir sur ces deux septennats, ses 14 ans à la tête de la France, sur ce président du changement qui deviendra ensuite celui de la rigueur avant d'être le premier à gérer une cohabitation et même deux. Alors on va, si vous le voulez bien, revisiter ensemble ce double septennat, ces grandes réformes, ces temps forts. On s'interrogera aussi en fin d'émission sur l'héritage de François Mitterrand. Mais d'abord, ce 10 mai 1981, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, battu, un socialiste qui accède au pouvoir, c'est le coup de tonnerre.
3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
Le peuple de gauche en liesse en ce 10 mai 1981, plein d'espoir, rose rouge à la main. Pourquoi ce souffle ? Avec quel espoir François Mitterrand arrive-t-il, Jean Garrigue ?
Parce que depuis 1936, la gauche, les socialistes... se sentait dépossédé du pouvoir. Et c'est vrai que sous la Ve République, ils n'avaient pas gouverné. En réalité, ils avaient gouverné un petit peu sous la IVe République, à travers des coalitions et puis à travers le gouvernement de Guy Mollet en 1956. Mais disons que là, il y avait une attente historique. Il y avait quelque chose en plus d'inattendu parce que François Mitterrand, jusqu'en 1971, jusqu'au moment où il prend la tête du Parti Socialiste, n'est pas encore socialiste, paradoxalement. Et le grand mérite de Mitterrand, ça va être de trouver une stratégie qui est au fond d'abaisser le Parti Communiste, en s'alliant avec lui, pour amener la gauche au pouvoir. Et là, il y a une reconnaissance, d'ailleurs, qui dure, je pense, encore aujourd'hui, dans la mémoire de beaucoup de militants de gauche, par rapport à François Mitterrand, d'avoir rompu ce cycle d'échecs, de défaites qui étaient dues notamment aux institutions de la Ve République, et puis d'arriver comme ça au pouvoir, d'amener enfin ce qu'on appelait le peuple de gauche au pouvoir.
Donc il y avait la liesse d'un côté, cette espérance, hein, ceux qui disaient que tout est possible désormais, puis il y avait la peur de l'autre, hein, la peur d'un changement de société. Certains voyaient déjà les chars soviétiques débarquer sur les Champs-Élysées, Catherine Ney.
Oui, mais enfin, surtout l'arrivée de François Mitterrand, justement, parce que la gauche arrive au pouvoir après 23 ans d'opposition au gaullisme, il y a eu un état de grâce comme n'a connu aucun président de la Ve République. Ça a duré plus de 6 mois. 74% des gens étaient ravis de l'élection, surtout qu'on leur avait promis qu'on allait recruter 1 million de jeunes pour le chômage. Enfin, et la campagne avait si bien marché qu'en 81, 84% des gens pensaient que c'était l'État qui doit créer des emplois et 59% qu'il fallait nationaliser toutes les banques. Donc, ils étaient d'accord avec le programme. Ils étaient socialistes en disant « ça va marcher, c'est une solution nouvelle, on en a marre du libéralisme, comme si le libéralisme avait existé en France ». En tout cas, Mitterrand a été reçu, élu comme un héros et encensé par ses proches comme personne. Quoi, les turiféraires avec Jacques Lang, qui avait toujours l'encensoir à la main. Donc, c'était une forme de liesse et d'éblouissement.
Et la grande cérémonie du Panthéon,
Jean Garrigue,
dans laquelle il s'auto-panthéonise en allant mettre des, des roses.
Une rose à la main et puis une autre, encore une autre. Oui, cette cérémonie, oui.
Il s'inscrit quand même dans l'histoire, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais dans l'héritage de Jaurès, Léon Blum, c'est le troisième homme, en fait.
Alors, en 14 ans, on a le temps d'en faire des choses. François Mitterrand a initié, vous le disiez, plusieurs grandes réformes. L'une des plus symboliques, c'est l'abolition de la peine de mort, votée dès l'automne 81 et portée par le garde des Sceaux, Robert Badinter.
Le choix qui s'offre à vous, en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair, cette justice d'élimination, d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité.
Le ministre de la Justice, Robert Badinter, à la tribune de l'Assemblée nationale, 17 septembre 81, on est 5 mois seulement après l'élection de François Mitterrand, qui a voulu frapper fort dès le début, hein, Jacques Attali.
Oui, j'ai entendu tout ce qui précède. Permettez-moi de vous dire d'abord d'où je parle.
J'espère
que vous avez des auditeurs assez jeunes pour ne pas savoir qui je suis depuis longtemps. J'ai rencontré François Mitterrand à 20 ans, en 1964. 4 ou 65, non, juste après 21 ans, juste après son élection présidentielle manquée de 65, je lui ai proposé de travailler avec lui. Nous avons commencé à travailler ensemble à partir de 73, de façon très approfondie. J'ai dirigé sa campagne de 74, qui a été la plus formidable, y compris le débat contre Giscard. Je dirigeais son cabinet pendant toute la période d'opposition et de la campagne législative de 78. J'ai de nouveau dirigé la campagne de 81, et à partir de 81, en effet, j'étais dans le bureau d'à côté de lui pendant 10 ans.
Et vous êtes donc l'une des personnes, sans doute, qu'il connaît le mieux, en tout cas, autour de cette table. Pour en revenir, Jacques Attali, pour en revenir à cette abolition de la peine de mort, c'était vraiment cette intention d'aller très vite, très fort, de marquer les esprits dès le début du premier septennat.
C'est amusant que vous citiez ça, parce que c'est très intéressant. François Mitterrand était très loin dans les sondages jusqu'en 1980 et quelques mois. Et en 81, début 81, dans une émission qui a lieu à France Télévisions, deux journalistes alors très connus, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, lui posent sans préavis d'aucune sorte, alors qu'ils avaient demandé à me voir pour préparer l'émission et avaient préparé avec moi toutes les questions, sans préavis d'aucune sorte, et comme un piège en fait tendu à François Mitterrand, il lui pose à la fin de l'émission, presque au moment du générique, la question « Monsieur François Mitterrand, un sondage vient de sortir disant que les Français sont pour le maintien de la peine de mort, vous êtes contre, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Pensant, je pense, lui donner un coup de jardac final, si j'ose dire. François Mitterrand répond très calmement qu'en effet, il sait que les Français sont contre, mais que lui, en son âme et conscience, il est pour l'abolition, pour des raisons morales, éthiques et religieuses. Et ce qui ne devait pas se passer est arrivé, c'est-à-dire que le lendemain, les sondages se sont inversés et les sondages sont passés de 58-42 en faveur de M. Giscard d'Estaing à 58-42 en faveur de François Mitterrand, puisqu'il avait montré aux Français qu'il était sincère sur ce point. Et donc les Français ont pensé que s'il était sur ce point, au point d'afficher une opposition impopulaire, il le serait sur le reste.
Vous voulez dire que ça a contribué à son élection ?
Très largement. Cette émission a été déterminante, malgré un contresens de ceux qui l'avaient orienté ce piège.
Bon, en tout cas, tout partait bien dans ce premier septennat, et puis arrive 1983, le tournant de la rigueur que François Mitterrand annonce lui-même d'ailleurs dès la fin 82 sur Europe 1.
Pour faire face à la crise et pour assurer le redressement national, j'en ai appelé à l'effort, mais dans le dernier plan rigoureux, notre objectif ce n'est pas la rigueur, c'est le redressement. Mais il faut de la rigueur pour ce redressement.
Ça va être dur, les Français n'imaginaient peut-être pas encore à quel point, hein, Jean Garrigue, le nouveau souffle dont on parlait tout à l'heure, qui va retomber comme un soufflet, si on peut dire ça comme ça. Mars 83, défaite de la gauche au municipal, il faut remettre peut-être dans le contexte, hein, la conjoncture économique est difficile, la France qui creuse sa dette, à ce moment-là tous les voyants sont au rouge. Hein.
Tous les voyants sont en rouge. Il faut dire que le programme les 110 propositions de François Mitterrand qui l'ont conduit au pouvoir était un programme extrêmement de rupture, extrêmement révolutionnaire et qui a qui a marqué, la retraite à 60 ans, les 39 heures, les lois Auroux, un plan de nationalisation qu'on n'avait pas connu depuis la libération. C'était quelque chose de très ambitieux qui reposait sur la relance économique, sachant que les socialistes, là, étaient confrontés à ce que déjà avait connu Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire la crise, c'est-à-dire la montée permanente du chômage, des problèmes d'inflation, etc. Et les solutions qui ont été prises en 1981, très très vite, ont été jugées, en tout cas par ceux qui étaient en charge des finances, et notamment Jacques Delors, ont été jugées incompatibles, au fond, avec ce qu'était l'environnement international. L'idée de la rigueur, l'idée d'un tournant, dès 1982, elle est là, elle fait débat, elle est discutée. François Mitterrand rechigne, François Mitterrand n'y est pas favorable, Pierre Mauroy hésite. Enfin, ça a été quelque chose d'assez dur, d'assez douloureux à opérer, ce virage.
Et on va y revenir dans un tout petit instant sur Europe 1, avec mes invités Catherine Day, Jean Garrigue et également Jacques Attali qui est en direct avec nous. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, c'est la suite de votre débat du Club des idées sur Europe 1 et on prend le temps ce soir de revenir sur les 14 années, les deux septennats de François Mitterrand, puisque vous savez qu'il y a 25 ans, tout juste, disparaissait l'ancien président. On en parle ce soir toujours avec mes invités, Jacques Attali, Jean Garrigue et Catherine Ney qui sont à mes côtés. On évoquait tout à l'heure la mise en place d'une politique de rigueur que l'on désigne comme un tournant.
Une politique de rigueur après des dépenses somptuaires, je veux dire les salaires plus 18%, le SMIC plus 10%, les minimums vieillesse. Enfin, les dépenses augmentent de 27,5%, les déficits multipliés par 3. En mars 82, les prix flambent, les investissements sont en panne et on s'aperçoit qu'en augmentant les salaires, ça augmente les importations et au contraire, il y a moins de production française parce que c'est les 39 heures déjà payées 40. Alors que les Allemands travaillent 45 heures par semaine. C'est toujours le vieux débat. Donc, il y a eu un premier plan de rigueur en mars 82, puis un deuxième, et puis le franc va être dévalué 3 fois. Et on est la risée des pays qui nous entourent. Donc, après les municipales, ce qui est extraordinaire, c'est que Mitterrand, l'Européen, pendant 8 jours, s'est demandé s'il ne sortait pas de l'Europe, s'il ne s'enfermait pas dans l'isolement.
L'Européen, voilà. On va en parler.
Oui.
On ne peut pas parler de François Mitterrand sans parler d'Europe, évidemment, et du couple franco-allemand, avec cette photo, notamment, qui restera dans les livres d'histoire. Nous sommes à Douaumont, le 22 septembre 1984. André Ancian, pour Europe 1, nous raconte ce moment où Helmut Kohl et François Mitterrand se recueillent main dans la main.
Ils ont planté ensemble un arbre, symbole d'un avenir prometteur de fraternité et de paix. Et puis, pendant l'exécution des hymnes nationaux, hier soir, François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus par la main. Geste chargé d'émotion, mais qui illustre aussi la profonde communauté de vues entre le président socialiste français et le chancelier chrétien-démocrate allemand.
Jacques Attali, elle était extrêmement symbolique, cette photo du président français.
Je suis très fâché de tout ce que je viens d'entendre et le fait qu'on ne m'ait pas donné la parole précédemment.
On vous la donne.
Tout ce que j'ai entendu, c'est de la propagande de droite classique, telle qu'on l'entendait à l'époque.
Non, on n'est pas là pour faire de la propagande, je pense.
Excusez-moi, c'est ce que vous venez de faire jusqu'à présent.
On vous écoute.
Il n'y a absolument eu... Je reviens sur le tournant.
Sur le tournant, qui n'a pas été accepté par une partie de l'électorat de gauche.
Il n'y a pas eu de tournant.
Ça, c'est la propagande socialiste qui dit ça.
Excusez-moi, est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît ? Vous avez fait assez de propagande pour que je puisse répondre. Il n'y a pas eu de tournant. Comme l'a dit très justement l'autre interlocuteur tout à l'heure, il y a eu un très grand nombre de lois de réformes qui ont été faites, en particulier de réformes économiques et sociales. S'il y avait eu tournant, toutes ces réformes eût été abrogées en mars 83. Aucune n'a été abrogée. Ni la retraite à 60 ans, ni les 39 heures, ni les lois, aucune n'a été abrogée. Elles ont été mises en application. Et encore moins les nationalisations. Il n'y a pas eu tournant à droite, ce qui aurait signifié cette abrogation. Il n'y a pas eu non plus de tournant à gauche, qui aurait été en effet l'abandon du système européen et la sortie de l'Europe, qui nous amène à votre deuxième sujet. Donc il n'y a pas eu de tournant en mars 83. Il y a eu un ralentissement dans la politique conjoncturelle de hausse des salaires. Point final. Ce mythe du tournant qui veut toujours installer dans l'esprit français que la gauche au pouvoir ne peut qu'échouer est faux. Les entreprises qui ont été nationalisées, si elles ne l'avaient pas été, elles auraient été en faillite.
Jean Garrigue, vous pouvez le partager peut-être
L'inflation dont on parlait tout à l'heure était en fait héritée en 1981 à 14%, et François Mitterrand la ramène autour de 5%. Donc assez avec ces mythes qui continuent 40 ans plus tard. C'est absurde. Bon,
en tout cas, comme ça, chacun aura eu la parole sur ces sujets. Jean Garrigue, peut-être
vous pouvez départager. Un tournant 84, complet, là.
Il est vrai que ce qui se passe en 82-83 n'est pas conçu par François Mitterrand, ni même par Pierre Mauroy, comme un tournant. C'est une inflexion, mais disons qu'il y a un certain nombre de paramètres dans l'économie mondiale qui vont faire que des choses vont changer. Et c'est vrai qu'on va arrêter, je veux dire, la dynamique de réforme qui avait été lancée en 1981. Ça n'est pas un tournant, je dirais que...
Le programme avait été mis en œuvre.
Oui, c'est vrai, l'essentiel avait été mis en œuvre. Et ça pourrait s'apparenter un peu à ce que Léon Blum avait appelé en 1937 la pause dans les réformes.
Voilà. Alors ce qu'on voit en tout cas, c'est que François Mitterrand, c'est un homme qui continue encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, à susciter les passions. Il y a une chose qui va vous réconcilier tous, je pense, autour de cette table, c'est justement la réconciliation franco-allemande, hein, qui est l'axe majeur pour assurer la permanence de la paix en Europe, hein, Catherine Ney. C'était quelque chose de très important, qui était cher au cœur de François Mitterrand.
Oui, puis je crois que les deux hommes se sont très très bien entendus parce qu'ils avaient une histoire commune, parce qu'ils avaient fait la guerre, chacun de son côté, en avait connu les horreurs, avait mesuré que vraiment l'entente franco-allemande était quelque chose de très très important. Et le chancelier n'était pas de gauche, c'était un conservateur, enfin un CDU, et François Mitterrand, le socialiste, ils se sont très très bien entendus. Et ça a été un des couples franco-allemands avec Giscard Schmitt, c'était l'inverse, qui se sont le mieux entendus. Et ils ont beaucoup œuvré aussi. Quand Mitterrand a choisi de choisir l'Europe, c'est une des réussites de François Mitterrand.
Oui, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'attachement européen de François Mitterrand, qui est quand même un des axes majeurs de ces deux septennats. Et qu'il considérait comme quelque chose de fondamental, si évidemment on ne revient pas au François Mitterrand de la guerre. C'est-à-dire que c'est cette expérience de guerre qui conduit à ce parcours d'Européen et de grand Européen.
Parce qu'il a été lui-même prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait François Mitterrand. C'était en 1992, justement, sur l'Europe.
Je lui dirais, tu as une patrie, elle est belle, elle est grande, et elle sera de plus en plus forte. Donc je lui donnerai un avenir, une espérance. Une volonté. Et en même temps, je lui garantirai la paix. On dit que les chances de développement seront infiniment plus fortes dans un grand marché que s'il était réduit au marché français.
Voilà ce qu'aurait dit François Mitterrand en 1992 à un jeune Français qui l'aurait interrogé. L'Europe, il y a aussi cet héritage, on le voit, on l'a encore entendu aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui s'est rendu à Jarnac sur la tombe de François Mitterrand, Jacques Attali. Hein. Ça, c'est un point commun qu'il y a entre les deux présidents.
C'est un point commun. C'est un point commun qui est celui de la volonté de laisser une trace dans l'histoire, de considérer que la construction européenne est essentielle. J'ai eu le privilège de participer à tous les entretiens de François Mitterrand avec Helmut Kohl, à peu près une fois par mois, de parler au téléphone avec le chancelier et ses collaborateurs au moins une fois par semaine pendant 10 ans. Ce que vous avez dit précédemment est tout à fait exact, les uns et les autres. Il y avait François Mitterrand, quand il avait des choix à faire, il choisissait l'Europe d'abord. Et il a choisi l'Europe avant le socialisme, pensant que le socialisme pouvait attendre et que l'Europe ne pouvait pas attendre. Donc ça, c'est un choix majeur qu'il a fait, qui a permis, je reviens une dernière fois là-dessus, qu'en 83, il n'y ait pas de tournant à gauche, ni de tournant
vous
à droite.
Vous y revenez.
Et la poursuite.
Et qu'il y a eu un tournant en 84.
Je ne vois pas de quoi vous parlez en 84, parce qu'en 84, je ne vois pas ce dont
en 84, on ferme les mines de charbon qu'on avait réouvertes en 80, parce que ça coûtait très cher. On avait embauché 8000 mineurs marocains. On règle le problème de la sidérurgie qu'on qualifie de canard boiteux. Je peux vous dire qu'en Lorraine, on a trouvé que c'était quand même un sacré tournant. Et on parle de profit alors que c'était un mot qui était exclu du discours de Mitterrand dans son livre « Changer la vie ».
C'est ce que la droite voulait faire croire, que c'était exclu. Mais ça n'était pas du tout dès 1974. Si vous regardez le programme présidentiel de 1974...
On n'arrivera pas à vous départager là-dessus, j'ai l'impression. Oui, on va avancer un petit peu dans le temps. Allez, on arrive en 1986, situation institutionnelle inédite. La droite remporte les législatives. François Mitterrand nomme alors Jacques Chirac.
Le peuple français a fait son choix. Il a élu une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et par là même... Il a approuvé une nouvelle politique pour notre pays. Le président de la République m'a proposé d'exercer la fonction de Premier ministre dans une situation nouvelle sous la Ve République.
Là, pour le coup, c'est un vrai tournant. Jacques Attali, première expérience de cohabitation.
Oui,
comment François Mitterrand a-t-il vécu ce moment?
C'était absolument passionnant. Je me souviens, en effet, comme vous l'avez dit à l'instant, c'était tout à fait nouveau. Il n'y avait pas eu de cohabitation avant et aucune règle n'était fixée d'ailleurs. Je crois avoir compris assez vite que Jacques Chirac était convaincu que François Mitterrand serait forcé de démissionner. Mais on n'avait pas de règles, on ne savait pas ce que François Mitterrand pourrait faire.
Et vous ne lui aviez pas conseillé vous-même à François Mitterrand de partir pour, parce qu'il était
non,
battu ?
Absolument
non,
pas.
Ah bon,
absolument
parce que...
pas. Ah bon. Absolument pas. Jamais. Pas une seconde, j'ai pensé à ça, ni personne d'ailleurs. Jamais. Monsieur Giscard d'Estaing, lui, est parti à Rambouillet. Nous, moi, mon obsession, c'était que François Mitterrand garde le contrôle de la politique étrangère. Et pour cela, il a accepté que le secrétaire général de l'Élysée et moi, nous assistions au Conseil des ministres face à un gouvernement de droite. Il a choisi, contre l'avis de ses amis politiques, je me souviens d'un déjeuner juste après les élections présidentielles, législatives, où tous les socialistes lui disaient « il faut nommer Giscard, il faut nommer Simone Veil », où il disait « pas du tout, il faut affronter le problème de face et nommer Chirac », et lui laisser tout le pouvoir en politique intérieure, mais aucun pouvoir, ni en matière de défense. Et François Mitterrand contrôlait très, 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 très étroitement l'action en matière de stratégie nucléaire et de défense, et en politique étrangère. Et ce qui fait d'ailleurs que...
Je voudrais aussi
qu'on ait d'ailleurs que la cohabitation s'est installée très très précisément ainsi, et ensuite toutes les autres cohabitations ont suivi ce modèle.
Je voudrais qu'on ait l'œil de Jean Garrigue, historien spécialiste d'histoire politique, justement sur cette première expérience de cohabitation.
Oui, c'est un des grands mérites de François Mitterrand et de Jacques Chirac d'ailleurs, mais surtout de François Mitterrand, d'avoir admis ce qui était à l'époque, il faut le rappeler, contesté par beaucoup. Raymond Barre, le premier, qui était très hostile à cette idée de cohabitation, qui ne pensait que ça ne pourrait pas marcher. Et en fait, si on réfléchissait vraiment fondamentalement à ce que recherchent les Français, je pense que c'est presque la meilleure solution que d'avoir un président de gauche et un premier ministre de droite. Mais en l'occurrence, ils ont réussi à faire fonctionner cet attelage qui n'allait pas de soi. Il y a eu quelques petites scories, quelques anicroches au début, notamment pour la participation au sommet international, etc. Mais bon an, mal an, ça a quand même plutôt fonctionné. Et le grand mérite de François Mitterrand, ça a été surtout de construire à travers ça son image de rassembleur, de donner à Jacques Chirac la place du mauvais élève, de celui qui était disruptif, celui qui endure aussi, qui prend sur ses épaules le poids des échecs de son gouvernement, qui divise, et puis de construire sa campagne de réélection en 1988. Donc c'est à la fois, pour l'histoire, quelque chose de fort, parce que ça construit, je pense, cette alternance et cette cohabitation qui, par la suite, s'est reproduite. Et puis, pour François Mitterrand, ça a été le marchepied de sa réélection.
Catherine Ney, la cohabitation, à ce moment-là, c'était la bonne solution ?
Les Français étaient un peu grisés au départ en pensant que c'était l'alliance de deux camps et que ça allait être formidable. Et ça ne l'a pas été, parce que c'était deux politiques qui étaient face à face. Et moi, je crois que Jacques Chirac, qui a voulu qu'il avait une lecture de la Constitution, voulait se mêler de politique étrangère et a eu le tort de vouloir venir sur le terrain de François Mitterrand, qui a su, évidemment, avoir le dernier mot. Et c'était, en fait, Jacques Chirac laissait la conduite des affaires à Édouard Balladur, le ministre d'État, ministre Et donc, très très vite, Mitterrand, agacé par l'activisme de Jacques Chirac en matière étrangère, en disant « Écoutez, gouvernez, faites la politique intérieure et laissez-moi faire ». Donc je pense que Mitterrand était très, très, très agacé par Jacques Chirac et il l'a freiné de son côté sur les ordonnances en refusant de signer, parce que rien ne l'y contraignait d'ailleurs, ce qui a ralenti beaucoup la marge des affaires. Et puis il y a eu la réforme... La réforme de la loi de Vaquet de l'université, auquel on a prêté des visées qui n'y étaient pas, et on a fait sortir l'éducation nationale dans la rue, et puis on sait comment ça s'est terminé avec la fameuse mort de Malik Oussekine.
Oui. En tout cas, le 8 mai 88, François Mitterrand est réélu face à Jacques Chirac, et il nomme Michel Rocard Premier ministre.
L'ouverture prendra sa réalité quand on se sera aperçu qu'au-delà du bloc socialiste, il y a des gens qui se reconnaissent dans les références choisies, celle de la solidarité, celle de la modernisation de notre économie. Tout cela passe par des choses sur lesquelles peut se retrouver une majorité plus large que l'actuelle.
Jacques Attali, ce choix, c'est la réconciliation entre deux hommes qui s'étaient opposés pour le leadership de la gauche, mais est-ce que c'est vraiment une réconciliation ?
Non, Pas vraiment. François Mitterrand n'a jamais cru que Michel Rocard était un adversaire pour lui, tout simplement parce qu'il ne le pensait pas capable d'être président de la République. Il me l'a dit mille fois, il l'a exprimé. D'une certaine façon, avec Michel Rocard, c'était une autre cohabitation. Aussi inévitable. Quand je vous ai dit qu'en 86, François Mitterrand avait dit aux dirigeants socialistes « Il faut qu'on nomme Jacques Chirac, que je nomme Jacques Chirac parce qu'il faut purger cette hypothèque », c'est exactement la même chose en 88, où il pense qu'il faut purger l'hypothèque Rocard pour s'en débarrasser, parce qu'il le pense
mauvais. Et il a bien fait.
Mauvais. Alors, je vous dis ce que je... Moi, j'étais très, très, très ami de Michel Rocard. Et j'étais, d'ailleurs, François Mitterrand, quand il me parlait de Michel Rocard, disait « votre ami Rocard ». Et donc, j'étais un peu entre deux feux. Mais je pense qu'en effet, avec le recul de l'histoire, que Michel Rocard n'avait pas la stature, la capacité politique et de grandeur qu'exigerait la fonction présidentielle. Je ne veux pas dire que tous les présidents l'ont eu ensuite, mais qu'exigerait la fonction présidentielle. C'était un homme merveilleux, un ami exceptionnel, un homme intelligent, qui a fait un très bon Premier ministre. Mais François Mitterrand ne l'aimait pas ou ne le comprenait pas et n'a eu de cesse que de voir finir son mandat.
Vous êtes d'accord, Jean Garrigue, avec Michel Rocard, c'est une autre cohabitation.
Oui, je trouve que d'ailleurs, ils l'ont dit à l'époque. Chirac le disait en riant, etc. Non, évidemment, c'était le mariage de la carpe et du lapin. Ils étaient aussi dissemblables qu'on peut l'être. Et le conflit entre les deux hommes datait de 30 ans, parce que quand il était jeune, Michel Rocard avait beaucoup critiqué l'attitude de François Mitterrand en tant que ministre de l'Intérieur sous la 4e République, la politique algérienne de François Mitterrand. Donc c'était
il un très vieux d'archaïque.
C'était
aussi
un très vieux conflit. Et puis Michel Rocard portait ce qu'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire une autre forme de projet de gauche qui était la social-démocratie. Sur le bilan de Michel Rocard en tant que Premier ministre, a été plutôt positif, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'on voyait bien que c'était les sondages qu'il avait poussés là, que pour Mitterrand, l'idée aussi d'ouvrir vers le centre-gauche justifiait la présence de Michel Rocard à Matignon, mais que tôt ou tard, il mettrait fin à cette expérience qui avait été un peu imposée par les circonstances.
Alors on va avancer un peu dans le temps, parce que justement, le temps, lui, sur l'horloge d'Europe 1, avance. 17 septembre 1992, c'est la révélation de la maladie de François Mitterrand.
Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passait.
L'heure est lycée maintenant, à partir du Conseil des ministres mercredi. Je reprendrai normalement.
Dimanche, ça va être une journée de vacances. Si tout va bien, et il n'y a aucune raison que ça aille mal, c'est un combat honorable à mener contre soi-même.
François Mitterrand au micro européen de Frédéric Elbert. Catherine Ney, aujourd'hui, ça paraît presque banal qu'un président dise qu'il est malade. Ça ne l'était pas du tout à l'époque.
C'est pas du tout banal, même aujourd'hui, je crois, enfin, même si personne n'est malade, en tous les cas.
On communique beaucoup plus sur l'état de santé de nos dirigeants.
À Europe, je me souviens, on savait à l'automne 81 qu'il était malade. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a eu des traitements qui ont fait qu'il a été prolongé et que pendant de longues années, eh ben, on n'a pas imaginé qu'il puisse l'être, alors que son médecin l'a raconté, comment dans les voyage officiel, il mettait un compte-gouttes, enfin tout ça, donc il était malade depuis très longtemps.
Il a longtemps hésité à révéler cette maladie, Jacques Attali.
Écoutez, je peux vous raconter, si vous me donnez 2 minutes, parce que ça suppose au moins 2 minutes, et je vais essayer d'être très court. En fin septembre, début octobre 81, François Mitterrand fait venir dans son bureau les 3 collaborateurs les plus proches, qui étaient André Rousselet, Pierre Bérégovoy et moi, et nous dit « Je viens de voir mon médecin, prenez vos dispositions, je serai mort avant la fin de l'année, je veux que ça reste secret, ni ma famille ni le Premier ministre est au courant ». Évidemment, on était tous glacés, on n'avait rien à faire sauf à regarder ce que disait la Constitution. J'ai su après, je vous passe ces détails, qu'en fait le médecin, le très grand médecin, qu'il avait vu, d'ailleurs sur mon conseil, c'est moi qui l'avais envoyé le voir, lui avait dit « vous serez mort dans 12 mois, et pas à la fin de l'année ». Et puis en février, comme il n'était pas mort, j'ai dit à François Mitterrand, c'était en effet une conversation difficile à avoir, je lui dis « mais est-ce que vous avez envie de reprendre le sport ?» Parce qu'avant sa présidentielle, on jouait au tennis. Il me dit « oui, avec plaisir ». Et c'est là qu'on s'est remis à jouer au golf, 2 fois par semaine. Et la première fois qu'on est parti au golf, je lui ai dit « ça va mieux ?» Puisqu'il nous avait dit ça, je n'avais pas eu d'autre conversation que depuis cette annonce de sa mort prochaine. Il me dit « ces imbéciles de médecins se sont trompés ». J'ai su plus tard, par le très grand médecin qui l'avait soigné, qu'il y a eu une régression, que ce très grand médecin,
qui ne m'en a parlé qu'après la mort de François Mitterrand, m'a dit être totalement incompréhensible des métastases qui avaient gangréné tout son corps. Et François Mitterrand se croyait sincèrement, je crois, guéri à partir de février-mars 82.
Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Jacques Attali. Il y a plein d'épisodes hein, de ces deux septennats qu'on aurait envie de raconter ce soir. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Évidemment, 93, la deuxième cohabitation, le suicide de Pierre Bérégovoy, la révélation de la vie privée de Mazarine, hein, évidemment, en 94, à Paris Match. Et puisqu'on parle de la santé de François Mitterrand ce soir avec vous, il va terminer ce deuxième mandat très affaibli, sous traitement pour son cancer. Écoutez ses derniers vœux aux Français qui sonnent comme des adieux.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Catherine Nel, il y a presque un côté mystique hein, dans ses voeux d'au revoir, d'adieu.
Et religieux, et il a renoué avec son éducation, de sa jeunesse, élevé par une mère qui lisait la Bible et qui priait trois fois par jour. Et je pense qu'il est revenu vers ces rives-là à la fin de sa vie. Il a, d'abord parce que je pense que c'est un besoin pour quelqu'un qui doit partir d'avoir une espérance et d'une forme d'espérance. Mais ce qui était terrible, c'est que la dernière année, on voyait qu'il souffrait. Et c'était un homme qui était devenu un sphinx au teint d'ivoire, qui était comme ça. D'ailleurs, je trouvais qu'il avait même... la maladie l'avait anobli, je trouvais. Il avait des traits beaucoup plus fins. Et donc, on éprouvait de la compassion pour lui. Et il a été très courageux.
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac remporte la présidentielle. 10 jours plus tard, c'est la passation de pouvoir. Et assez rapidement après, François Mitterrand succombera à ce cancer. 25 ans après sa disparition, Jacques Attali, qui sont ses héritiers ou son héritier aujourd'hui ?
Il n'y a pas d'héritier aujourd'hui. Il n'y a pas d'héritier. Il y a toujours une espérance de gauche. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui l'a dit, Emmanuel Macron était au départ un socialiste. Et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, quand je lui ai proposé travailler avec moi.
Mais oui, on se souvient de ça, votre commission. Voilà.
Bon, pas d'héritier, oui, vous le regrettez, j'imagine.
Ah, pas du tout. Pas le moins du monde. Je pense que à l'heure où nous parlons, au moment où nous parlons, il est le meilleur possible, en particulier pour les grands enjeux internationaux que nous affrontons. Dans le paysage actuel, politique française, il est le meilleur possible. Il n'empêche que l'espérance de gauche, ça reste une expérience d'utopie, de rêve, de justice, d'empathie sociale, et qui doit s'incarner d'abord un programme. François Mitterrand n'eût rien été s'il n'y avait pas eu un grand programme qu'il a mis en œuvre.
Jacques Attali, je dois vous arrêter là, malheureusement. Mais je vous promets que sur Europe 1, on va faire d'autres émissions. C'est une année qui va être très largement consacrée à François Mitterrand. On aura l'occasion d'en parler. Merci
avec
beaucoup.
Joie.
Merci à tous les trois, Jacques Attali, Jean Garrigue et Catherine Ney, de m'avoir accompagné ce soir dans cette plongée au cœur du mitterrandisme.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, on va vous raconter ce jour de 1972 où le dernier homme a marché sur la Lune. À tout de suite.